Et voici un grand intellectuel devenu à son corps défendant un symbole, le symbole de ce que les populistes exècrent. Mikhaïl Ignatieff était à l'origine un professeur de sciences politiques canadien, très bon prof. On lui doit notamment une biographie d'Ishaï Berlin, le philosophe anglais, mais aussi de nombreux ouvrages sur les droits de l'homme, la guerre en Yougoslavie. Ignatieff s'est aussi engagé en politique. Il a été élu député de Toronto, au Canada donc. Mais finalement, son plus grand rôle politique, il l'occupe désormais, puisqu'il dirige la Central European University de Budapest. Alors si ce nom ne vous dit rien, c'est normal, car cette université d'Europe centrale est surtout connue sous le nom d'Université Soros, laquelle est désormais attaquée quotidiennement par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Cette université occupe un magnifique bâtiment au centre de Budapest, première à droite après la rue Attila, attention. C'est Joseph Attila, le poète. Ignatieff, lui, occupe un confortable bureau dans ce palais austro-hongrois, lequel convient fort bien à sa silhouette patricienne.
C'était fondé après la chute de la fin de la guerre froide par un groupe d'intellectuels hongrois avec l'aide de George Soros, qui était réfugié hongrois. Et ils ont fondé une université afin d'aider la transition du communisme à la démocratie. Ils ont pensé que il fallait renouveler l'université elle-même, parce que l'université s'appelait Karl Marx University. Il fallait changer tout ça. Il fallait implanter ici en Hongrie la culture académique ouest-européenne et nord-américaine. C'était notre but. Nous sommes une école des hautes études en sciences sociales. Nous sommes ici depuis 25 ans pour assister à une transition qui est bien différente de ce qu'on attendait.
Alors justement, on entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la Hongrie vit une période politiquement troublée. Comment pourriez-vous la qualifier, Mikhaïl Ignatieff ?
Oui, la transition est en dérive, il faut le dire. Ici, en Hongrie, nous avons une démocratie majoritaire qui a mis au pouvoir un système politique du parti unique. Alors, dans un certain sens, pour le 21e siècle, on a recréé le pouvoir unique du système communiste d'avant la transition. C'est ça qui est tragique ou ironique dans la situation.
Comment cela se fait-il ? Comment on en est arrivé là ? Puisque lorsqu'on circule dans les rues de Budapest, la ville semble prospère, les chiffres économiques sont bons. Bref, il n'y a pas a priori de raison liée à une détérioration de la situation économique pour en arriver là.
Oui, au contraire, l'Hongrie se porte plutôt bien. C'est dépendant de l'industrie automobile allemande, où il y a des usines importantes. Je crois pour un bon tiers de la population, c'est beaucoup mieux qu'avant 89. Mais ce qu'on a vu, par contre, c'est une détérioration de la situation politique et du système politique. Un appauvrissement de la démocratie mené par le parti au pouvoir, Fidesz, sous la domination absolue de M. Orban. Mais c'est un nouveau type de régime pour le 21e siècle. Par exemple, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il n'y a pas de répression ouverte. Si on n'aime pas le pays, on peut quitter, on peut partir. Et 500 000 Hongrois vivent ailleurs, en France, par exemple, ou en Allemagne. On peut faire une critique féroce du gouvernement. On voit, il y a une presse libre, il y a des universités. Mais c'est un régime qui essaie de mettre tout sur sa tutelle, petit à petit. D'abord la magistrature, ensuite la presse, les médias, et maintenant les universités. Et ils sont en train, M. Orban est en train de perfectionner un nouveau régime de parti-État pour le 21e siècle, où il y a une liberté apparente, un marché capitaliste, mais en contrôle absolu d'un parti unique.
Pourquoi les Hongrois ont-ils choisi ce parti?
Parce qu'ils en avaient marre des autres. Il y a très peu d'opposition. Monsieur Orbán a pulvérisé l'opposition. Quand les socialistes étaient au pouvoir, cette élite de transition, la transition après 89, cette élite de transition a fait l'entrée en Europe, l'arrivée du marché capitaliste, la réforme des institutions, la création d'une nouvelle constitution. Ça veut dire, cette élite de transition a fait un bon travail. Et puis, ensuite, ils se sont mis à bénéficier du système. Ils sont devenus, de petit à petit, un peu corrompus. Et puis, les Hongrois ont chassé cette élite de transition. Ils ont choisi une nouvelle élite de transition. Ça veut dire l'élite de M. Orbán. C'est une élite des petits villages et des petites villes du pays. C'est pas l'élite de Budapest. C'est l'élite des provinces. Et ils sont au pouvoir.
Est-ce que ça veut dire, Mikhail Ignatieff, vous qui dirigez la Central Europe University, l'université d'Europe centrale ici à Budapest, est-ce que ça veut dire qu'il y a une vraie différence entre la situation que l'on observe à Budapest et la situation qu'on a dans les campagnes?
Oui, dans les campagnes, il y a très peu de médias pluralistes. Ils reçoivent que le télé gouvernemental, ils reçoivent que le message du gouvernement. Si on voit dans les villages, il y a une pancarte et c'est la pancarte du gouvernement. L'emprise du gouvernement sur les villages et sur les petites villes est presque totale et l'opposition a très peu de pouvoir organisationnel dans ces régions. Et c'est ça, ça c'est la base du pouvoir de M. Orbán. Et il n'a que 54 ans, je crois, M. Orbán. Il est en place pour un certain moment.
Sur le plan politique, il y a peu de pluralisme dans les campagnes. Est-ce que sur le plan économique, il y a de vraies différences entre la Hongrie des villes et la Hongrie des campagnes?
Une des tragédies de l'ère communiste, c'est que ils ont supprimé le paysannerie. Il y a très peu de petite agriculture, comme en France, par exemple. Le paysage est sous l'emprise du parti État. Et puis ensuite, dans les petites villes, il y a l'implantation des usines allemandes. Alors c'est une forme d'économie très dépendante de l'industrie allemande et une classe petit bourgeois, si j'ose employer ces termes marxistes, une classe petit bourgeois très petit, très très faible. Et des classes professionnelles assez faibles aussi. C'est une des raisons pour lesquelles, dans un petit pays, il y a très peu d'indépendance du pouvoir public. L'économie passe par le pouvoir public. L'économie et tout le prestige social, tout le prestige culturel passe par le pouvoir politique. Alors c'est pour ça que nous avons un parti État ici. Et ça va durer, je crois.
Orbán n'a pas toujours été le populiste que l'on connaît. Fut un temps, Orbán était un libéral au sens français du terme.
Oui, et ce qui est ironique, c'est que quand Central European University était fondée par M. Soros, il a donné des bourses à beaucoup de jeunes gens qui étaient des opposants du régime communiste. Et ça inclut M. Orbán, qui a reçu une bourse pour aller à Oxford. Alors, et c'est une histoire intéressante. Monsieur Orbán a eu un rôle courageux dans la chute du communisme ici, et puis, petit à petit, dans les années 90, il a vu que il y avait cette élite de transition libérale où il n'avait pas de place. Alors il a créé un nouveau place pour lui, à droite, plus conservateur, plus lié à la campagne, aux petites villes. Et comme ça, il a créé avec lui et autour de lui une nouvelle classe qui se sentait exclue par cette élite de transition libérale.
Ah oui, c'est-à-dire que c'est ça qui explique sa transformation, parce qu'il y a eu une vraie transformation du personnage Orban, comment il est passé de finalement d'une ligne extrêmement voisine de celle de George Soros à une ligne qui aujourd'hui fait qu'il incarne l'opposition à la société ouverte.
Oui, il y a un certain opportunisme sur M. Orban, mais aussi, je crois, un certain conservatisme. C'est un gars des villages, très intelligent, très astucieux, un véritable génie politique dans un certain sens, mais qui a reconnu qu'il était exclu de cette élite de Budapest. Il ne sentait pas à l'aise avec cette élite sophistiquée, cosmopolite, libérale.
Mais lui était très cosmopolite, il parle anglais parfaitement.
Oui, oui, mais il sentait un certain ressentiment envers cette élite qui ne l'acceptait pas. Il y a un certain ressentiment, je crois, qui le pousse vers la droite. Et puis l'opportunisme qui a vu qu'il y avait un espace politique que lui, il pouvait occuper et contrôler.
Aujourd'hui, la situation donc politique en Hongrie, elle est pleine d'un sujet, celui des migrants. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est précisément de la situation des migrants en Hongrie, Michael Ignatieff?
Je crois que si M. Orban pouvait avoir zéro comme immigrant, zéro comme réfugié, ce serait sa préférence. Et je crois que c'est la préférence majoritaire de la population hongroise. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des racistes, ça ne veut pas dire qu'ils sont même antisémites, mais ça veut dire que c'est un petit pays avec une langue et une culture qui se définit comme fragile. Et il y a 10 millions d'Hongrois à peu près, et ils se sont menacés de l'extérieur. La psychologie hongroise est très... nous sommes des victimes de notre histoire. Nous sommes entourés par des... Au sud, les pays musulmans sont très proches. Il faut ériger des barrières, tout ça. Tout ça, c'est dans la psychologie profonde du pays, je crois. Et M. Orban a un sens parfait pour ça. Il a une bonne oreille pour l'Hongrie profonde. Et puis, il y avait en 2015 quelque chose d'inoubliable. Ça veut dire 1 million de réfugiés sont arrivés d'une semaine à l'autre. Et c'était un choc pour tout le pays. Le pays a eu peur. Et puis, M. Orban a compris immédiatement que c'était sa chance politique, parce qu'il se trouvait dans une certaine difficulté en cette période. Mais il a vu que l'immigration lui offrait la possibilité de se faire réélire. Et maintenant, c'est la base de toute sa politique. Et c'est aussi la base de sa campagne contre le fondateur de notre université, M. Soros. Parce que M. Soros est un réfugié. M. Soros n'a pas de politique migratoire particulière. Il ne veut pas imposer des immigrants en Hongrie. Tout ça, c'est de la fantaisie urbaniste. Mais il est pour l'immigration. Alors, M. Orban a vu, on peut choisir l'immigration comme le sujet numéro un pour l'élection prochaine, et on va gommer M. Soros avec tout ça, et on va blâmer M. Soros pour cette invasion des musulmans. Invasion en guillemets. Alors, Et tout ça, c'est la base de sa mobilisation, de sa base.
Est-ce que c'est réellement chimérique lorsqu'on arrive à Budapest, on emprunte la route qui conduit de l'aéroport jusqu'à vous, et on a droit à ces grandes affiches où on voit Jean-Claude Juncker et George Soros qui sont présentés comme des diables et qui doivent nous inciter, en tout cas qui doivent inciter les Hongrois à voter pour Viktor Orban. Est-ce que réellement George Soros n'a pas eu un rôle dans l'immigrationnisme ? C'est comme ça qu'on dit en français maintenant.
Oui. Écoutez, je suis pas ici pour faire la défense de M. Soros, mais ce qui est navrant, c'est cette création d'un bouc émissaire. Il y a un côté antisémite dans tout ça qui est pas négligeable. Dans tous les pancartes pendant 18 mois, on peut lire « Ne laissez pas à M. Soros le dernier laugh. »
Dernier rire.
Oui. Dans ces pancartes, on retrouve un vieux cliché antisémite. Ça veut dire « il rit de nous ».
Il se moque de nous.
Il se moque de nous. Il se moque de nous. Ça, c'est le système symbolique.
Il se moque de nous. Pourquoi ? Parce que George Soros a ici une action purement bénévole et purement caritative, cette université, il la finance sur ses fonds propres. Alors on peut être d'accord ou en désaccord, mais en tout cas, il ne tire aucun intérêt de cela. Qu'est-ce qui lui est reproché ?
Il y a toute cette suspicion d'un homme très riche, cosmopolite, avec beaucoup d'influence sur la politique européenne. Il tire les ficelles d'ici et là, il y a une certaine paranoïa. Et ça sert pour M. Orban à créer, un bouc émissaire qui est l'ennemi nécessaire. C'est l'ennemi nécessaire de la politique de M. Orban. Et ça marche à merveille, il faut le dire. Et c'est triste et ça nous donne beaucoup de difficultés parce que c'est impossible de bouger ça. C'est maintenant ancré dans la politique hongroise d'une façon que je trouve néfaste et triste.
Mais il y a eu une réaction malgré tout. Il y a eu beaucoup de manifestations à Budapest, en Hongrie. Et il y a une politique qui est extrêmement radicale de la part de Viktor Orban, notamment pour déréguler le marché du travail.
Ouais.
Une réaction forte. Est-ce que du coup, on peut imaginer que Viktor Orban soit réellement menacé politiquement ?
Je crois que ça va prendre des années. Il y a une résistance. Il y a beaucoup de gens qui en ont marre de M. Orban, ça c'est clair. Mais il ne faut pas attendre des résultats immédiats. Je crois que ça va prendre des années avant que M. Orban soit rejeté par l'électorat hongrois. Parce que c'est un homme fort, avec une base politique, un contrôle tout à fait du média. Alors oui, il y a de la résistance, mais ça va prendre du temps.
Et nous retrouvons Mikhail Ignatieff, le directeur de l'université Soros. Vous savez, cette université est devenue la cible du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Mikhail Ignatieff va s'exprimer donc sur la situation européenne et la situation de son université située en plein cœur de Budapest.
Oui, on doit établir un nouveau campus à Vienne parce que le gouvernement Orban nous empêche de maintenir notre identité comme université américaine. Nous donnons des masters et des doctorats accrédités aux États-Unis. Ils disent non, vous ne pouvez pas continuer comme ça à Budapest. Alors, ils nous chassent de Budapest de ce côté et nous allons établir un nouveau campus à Vienne septembre prochain. Mais en même temps, on va maintenir notre base ici aussi. Nous sommes devenus un certain symbole de liberté académique, de recherche scientifique ici à Budapest. Nous sommes ici depuis 25 ans et on va rester ici. Nous sommes au centre de Budapest. Nous allons garder nos centres de recherche. Nous allons garder, j'espère, la possibilité d'enseigner ici. une bibliothèque, une archive et beaucoup d'autres choses. Et nous allons maintenir surtout notre possibilité de donner des conférences pour le grand public. Parce que nous sommes devenus un centre intellectuel ici à Budapest et un symbole. Et je veux garder tout ça.
Les opposants à l'université, qu'on appelle l'université Soros, disent que vous êtes un organe de propagande.
Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est la rhétorique du gouvernement. Nous sommes une université sérieuse en sciences sociales. Le gouvernement insiste que nous faisons de la propagande. C'est pas vrai du tout.
Alors, en particulier, le gouvernement vous a reproché d'enseigner les théories du genre, ce qu'on appelle les théories du genre.
Oui, oui. Nous sommes des enthousiastes du genre. Nous avons ce que nous appelons en anglais « gender studies ». Ils sont très critiques de tout ça parce que dans leur vision conservatrice, les femmes doivent rester chez eux. Ils doivent avoir beaucoup plus d'enfants. C'est un pays d'ailleurs qui est en chute démographique libre. La ligne urbaine, c'est de remonter la pente de la démographique pour sauver l'Hongrie menacée par cette chute démographique. Et ils ont fait une attaque idéologique contre l'étude du genre, justement parce que ça colle bien avec leur politique conservateur de la famille.
Homophobe.
Et homophobe aussi.
C'est important chez Orban aujourd'hui, l'homophobie.
Mais c'est compliqué. C'est tous dans le même sac, il faut dire. Je crois qu'ils sont contre les gays, les femmes libres. Et c'est une des raisons pour lesquelles notre département de l'étude de genre est plein d'angoisses qui essaient de s'évader de la pression idéologique à Budapest.
Derrière vous, il y a une photo de vous-même, Mikhail Ignatieff, avec Barack Obama. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que Donald Trump est finalement sur la même ligne politique que Viktor Orban ?
Plus ou moins. Il y a un phénomène populiste à travers le monde. Le gouvernement Trump aurait pu aider une université américaine ici. Ils ont décidé de nous laisser tomber pour des raisons partisanes, parce que M. Soros est un homme de gauche, plus ou moins. Alors, ça c'est quelque chose de triste, parce que la liberté académique n'a pas de couleur politique. Et c'est essentiel pour l'avenir de l'Europe et pour l'avenir de la liberté académique elle-même, que ça reste quelque chose qui n'est pas empoisonné par la partisanerie. Mais malheureusement, nous sommes un peu le victime de la partisanerie politique et de ce international populiste qui est en train de se définir.
Mais alors, le paradoxe, c'est que finalement, cet international populiste que vous appelez ainsi, Mikhail Ignatieff, veut des nationaux populistes, puisque ici, par exemple, en Hongrie, le souhait, le programme de Viktor Orban, c'est une Hongrie hongroise.
Certainement. Et ce qu'on voit avec un nationalisme américain, c'est un peu la même chose. Et ce qu'on voit juste derrière ça, c'est la retraite de l'États-Unis de toute influence dans l'Europe de l'Est. Je me souviens d'une époque où M. Holbrook était au centre.
Richard Holbrook, il faut.
Richard Holbrooke était au centre de la solution de la guerre en Bosnie, mais en 20 ans, je crois qu'il y a une retraite très nette des États-Unis de toute influence, intérêt, quoi que ce soit, dans cette région. Et ça, c'est triste. Mais et peut-être dangereux.
Il y a plus que ça, parce que je vois par exemple les livres qui sont derrière vous. Alors, je vois Tocqueville, je vois Primo Levi, et je vois un certain nombre de livres relatifs.
Vous avez choisi mes favoris, là.
Et vous avez beaucoup de livres sur les droits de l'homme, parce que vous avez écrit sur les droits de l'homme. Est-ce que justement, ça n'est pas très précisément ça que déteste l'Europe d'Orban ?
Oui. Il y a dans cet conservatisme nationaliste un rejet d'une tradition libérale cosmopolite axée sur les droits de l'homme, sur un certain universalisme qui date de la Révolution française. Et je crois que ça, c'est une tendance du XXIe siècle qu'on n'attendait pas.
Alors justement, parce que donc vous dirigez Aujourd'hui, l'Université d'Europe centrale à Budapest, on l'appelle l'Université Soros, Mikhaïl Ignatieff, mais vous êtes aussi un grand politiste. On vous doit notamment une biographie d'Ishai Berlin, qui est un grand penseur libéral. J'aimerais que vous m'expliquiez qu'est-ce qui, dans votre génération de penseurs, n'a pas fonctionné pour qu'on en arrive là. Pourquoi avez-vous promu le libéralisme avec une certaine confiance lorsque le mur de l'Est s'est effondré? On pensait que la démocratie l'avait emporté. Et puis aujourd'hui, on aboutit à une situation différente. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a mal pensé? Qu'est-ce qu'on a mal fait?
Ça, c'est la question clé de notre temps. On a cru, après la chute du mur de Berlin, on a tombé dans un piège, ça veut dire de penser que l'histoire va dans une bonne direction, que l'histoire suit les rêves libéraux, et on a eu du mal à redécouvrir la pensée de Alexander Herzen, grand socialiste du 19e siècle en Russie.
L'un des premiers critiques du communisme.
Oui, grand critique justement du théorie de l'histoire marxiste qui disait « L'histoire n'a pas de libretto. L'histoire ne suit pas une ligne claire. Il n'y a pas de science d'histoire. » Et on ne peut pas prédire la direction de l'histoire. Et je crois que les libéraux sont tombés dans le piège qu'on a critiqué des marxistes pour avoir cette vision déterministe de l'histoire. Mais les libéraux ont commencé à faire la même erreur, de penser qu'après la chute du mur de Berlin, l'histoire devait rouler dans notre direction. Alors, il ne faut pas être surpris que l'histoire ne fonctionne comme ça du tout. Ça, c'est la première erreur, je crois.
Mais est-ce qu'il y en a eu d'autres, des erreurs?
Beaucoup d'autres erreurs. On a négligé le fait que ma vision du libéralisme, c'était toujours l'idée que l'État doit contrôler le marché. Je ne suis pas un néolibéral. J'étais toujours un libéral social de l'après-guerre. Nous avons créé l'État-providence. Mais dans la vision de l'État-providence, c'était une réglementation continuelle du marché. J'aime le capitalisme, mais j'aime un capitalisme qui soit réglementé. Et je crois que le libéralisme a oublié que le capitalisme pose une menace continuelle à la stabilité sociale et à la justice sociale. Et nous avons laissé apparaître une inégalité des chances qui devient de plus en plus flagrant chaque année. Et ça a brisé le contrat social qui est la base de la stabilité démocratique. Et ça, je crois que c'est le clé de l'affaire pour moi.
Oui, sauf que Orban, aujourd'hui, il est aux antipodes de ce que vous vouliez, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est ultra-libéral.
Oui.
Il veut aujourd'hui réformer le marché du travail de manière telle qu'on pourra faire beaucoup de choses, faire travailler les gens un nombre d'heures extrêmement important sans qu'il y ait de régulation. Et il veut en revanche que sur le plan de la société, il y ait un conservatisme absolu. C'est-à-dire c'est la formule inverse de celle que vous vouliez. Oui. Détruire l'État-providence et un conservatisme des mœurs. Pourquoi est-ce aujourd'hui ce que les gens veulent en Italie, en Autriche, en Hongrie aussi, évidemment?
Ils aiment la promesse de la stabilité. Ils aiment ce conservatisme des mœurs, parce que ça, c'est une promesse de stabilité. Vous allez garder ce que vous avez. Ils aiment aussi ce côté fausse démocratique de tout ça. Je vous écoute, je vous respecte. Les libéraux vont déranger tout, mais moi, conservateur, je vais vous donner ce que vous avez déjà. Vous allez conserver ce que vous avez. C'est formidable comme projet politique. Mais ça cache cette alliance avec un capitalisme sauvage. Et je crois que ça va être dangereux, parce que la dépendance de l'économie hongroise envers l'industrie allemande, ça pourrait être très difficile en l'avenir. C'est dans un changement profond à travers le monde, en France, en Chine, aux États-Unis et en Allemagne. Et un petit pays comme l'Hongrie, qui est dépendant de ce global supply chain...
Chaîne logistique globale, chaîne de production.
Chaîne logistique globale, ça pourrait être très dur pour eux.
Mais alors du coup, est-ce qu'on peut construire une économie de marché sans aboutir à une société de marché? Parce que c'est ça aujourd'hui la question qui se pose à Orban. Lorsqu'il libéralise le marché du travail, est-ce qu'il peut d'un côté avoir ça et de l'autre revenir à la Hongrie mythique du début du XXe siècle?
C'est la question pas simplement pour M. Orban, mais c'est une question pour M. Macron, M. Trudeau au Canada, où je me suis né. Pour Trump, une société de marché, c'est une société pas forcément libérale. C'est une société de marché qui est individualiste à l'outrance. Ça fait peur même aux libéraux comme moi. Je veux une société stable. Je veux une société avec un respect pour l'amour, pour la vivre ensemble, pour une tolérance basée sur une égalité. Mais pour les libéraux comme pour les conservateurs, il y a le même enjeu. Comment garantir une stabilité sociale où les gens n'ont plus peur de l'avenir? C'est ça qui est... Tout le monde a peur de l'avenir maintenant, sur l'écologie, sur les changements climatiques.
L'écologie, c'est important pour Orban?
Il s'en fiche, je crois. Mais c'est un enjeu capital pour un libéral comme moi. De donner aux jeunes gens une vision de l'avenir optimiste, c'est difficile.
Mais est-ce que ça veut dire que la société hongroise, Mikhail Ignatiev, vous qui dirigez cette université au cœur de Budapest, est-ce que la société hongroise est une société moins individualiste que, je ne sais pas, la société américaine?
Aussi individualiste. Je crois que derrière ce discours conservateur, ce nationalisme, c'est une société de marché. Ce régime néglige le système de santé, néglige le système d'éducation, néglige justement tout ce corps institutionnel qui tient ensemble une société. Et ils vont payer les frais.
Comment?
Si les hôpitaux ne marchent plus, si les écoles ne marchent plus. La solidarité sociale passe par des institutions fortes. Et les institutions sont faibles ici.
Vous avez été, Mikhail Ignatiev, élu député à Toronto, puisque vous êtes canadien. Et pourquoi, semble-t-il, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec cela, pourquoi la modernité, la société ouverte semble aujourd'hui bien résister au Canada? Alors, Justin Trudeau a des soucis politiques actuellement, mais bon an mal an, ça semble mieux se passer qu'en Europe, c'est évident, mieux qu'aux États-Unis, vous n'avez pas Donald Trump. Pourquoi y a-t-il, semble-t-il, un îlot de résistance chez vous?
Au Canada, parce que nous sommes un pays riche et avec beaucoup de chance. Nous sommes un pays énorme, alors nous avons de très bonnes cartes à jouer. Mais nous ne sommes pas... Vous avez décrit le Canada comme une île? Non, je ne crois pas. Nous sommes dans le même tourbillon.
Mais écoutez, vous dites que le Canada est un pays riche. La Hongrie a un taux de chômage de 3,4%. Ah, je ne dirais pas lequel est le taux de chômage en France. Une dette publique assez basse. Bref, tout va bien a priori ici.
Tout va bien si on néglige l'absence de liberté politique.
L'absence... Je parlais sur le plan économique.
Ouais. Mais c'est justement ça que la réussite économique pour le moment de l'Hongrie ne peut pas cacher les clivages sociaux, la dégradation des institutions et l'extrême faiblesse de la culture politique. C'est une culture politique de clivage entre ennemis avec un régime parti-État qui domine tout. c'est pas bon tout ça. Et pour l'avenir, ça va devenir de plus en plus difficile que M. Orban peut maintenir son régime.
Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans les décisions prises par Viktor Orban, puisque donc aujourd'hui, votre intégrité physique n'est pas menacée, on circule librement, et vous pouvez avoir n'importe quel livre, dire n'importe quel propos hostile au gouvernement ici. Qu'est-ce qui vous fait peur alors?
C'est ce style politique qui est maintenant répandu à travers le monde. La création des ennemis, la cultivation de l'haine. Si on mène une politique d'ennemi, à la fin du compte, on devient l'ennemi.
Alors, on a parlé de l'homophobie d'Orban, de son masculinisme.
Oui.
Il y a évidemment la lutte contre l'islam et contre un islam chimérique, c'est très important chez Orban.
Oui, la menace musulmane est un élément de la rhétorique ici qui est permanente. Et puis, on a cette vision incroyable qu'Hongrie est une civilisation chrétienne. Bon, je veux bien qu'il y ait une tradition chrétienne ici, mais on voit des églises vides à travers Budapest. On crée une identité fantôme. Les églises sont vides. Alors, l'Hongrie, oui, a une tradition chrétienne, mais ce n'est pas un pays chrétien.
L'antisémitisme, qui est important au travers, évidemment, des attaques contre George Soros, est-ce que ça, par exemple, c'est une manière pour Orban de renouer avec une tradition des années 30, ici en Hongrie, Mikhaïl Ignatieff?
C'est un antisémitisme qui vous regarde droit dans les yeux et nie absolument que c'est antisémite. Ils disent, nous avons des relations merveilleuses avec M. Netanyahou, Premier ministre d'Israël.
C'est
alors
vrai.
Ça prouve que nous ne sommes pas des antisémites.
C'est-à-dire que ce sont des sionistes antisémites.
Oui, oui.
Ils ont inventé la formule.
Mais ce qu'on voit, c'est une évidence, qu'ils retrouvent tout le symbolisme des années 30. Ils rient de nous, par exemple. Ils rient de nous. Les Juifs...
Les Juifs se moquent de nous.
Alors, ça, tout ce discours a une histoire tout à fait claire.
Il y a des Juifs en Hongrie, Mikhaïl Ignatieff?
Oui, il y a beaucoup de Juifs en Hongrie, mais aussi c'est un pays où le génocide des Juifs était le plus rapide de l'Europe. Du mars 44 au début juillet 44, 400 000 Juifs étaient déportés à Auschwitz.
Aujourd'hui, est-ce que les Juifs sont menacés en Hongrie?
Je crois pas, non. Ça, je dirais pas. Les synagogues sont renouvelées. Le régime dit haut et fort, nous sommes très pour la population juive ici. Mais ils retournent à des clichés, à des discours des années 30. Et il refait l'histoire des années 30.
Mais alors justement.
Parce qu'ils disent, juste pour se faire comprendre, ils disent, nous étions les victimes, pas des accomplices.
Ils ont été complices.
Oui, ils étaient complices des régimes.
Est-ce qu'il y a une nostalgie, par exemple, de l'Empire austro-hongrois, de ce qui était antérieur aux années 30?
Oui, il y a une grande nostalgie pour ça, parce que de 1867 jusqu'à 1914, c'était les meilleures années de l'histoire hongroise, en fait.
Pourquoi l'Europe ne réussit-elle pas à leur apporter cela? L'Europe pourrait être la continuation, et puis on voit bien que cela ne suscite pas beaucoup d'engouement ici.
C'est compliqué. Tous les Hongrois sont très pro-européennes. Les Hongrois pensent que l'Europe est une certaine protection. Et aussi Schengen leur donne la possibilité de travailler partout en Europe. Alors, l'ironie, c'est que M. Orban mène une politique anti-européenne du lundi jusqu'à vendredi, et puis samedi et dimanche, ils encaissent l'argent qui vient d'Europe. Mais pour la population hongroise, ils sont très pro-européennes. Et je crois que ça donne à l'opposition et d'autres forces politiques le moyen de entrer en bataille contre M. Orban. Je ne suis pas là pour donner des conseils à l'opposition, mais je vois une vide là. Il doit y avoir quelqu'un en Hongrie qui se lève et dise « Bon, Hongrie appartient à l'Europe. L'Europe, c'est le destin de l'Hongrie.
Mikhaïl Ignatieff, on a connu différentes périodes à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. On a connu une période où le libéralisme se croyait triomphant. Et puis ensuite, il y a eu le 11 septembre 2001. Est-ce que vous pensez que cette vague du populisme, elle va avoir une fin? Elle va se heurter à quoi, si elle se heurte à quelque chose?
Je ne vois pas dans le populisme une solution au problème. C'est ça le problème. Il y a une rhétorique, il y a un discours, mais il n'y a pas de solution.
Mais est-ce qu'il y a des actes?
On pense aux gilets jaunes. Qu'est-ce que le populisme offre aux gilets jaunes? Il y a un populisme de droite qui dit « je vous écoute ». Il y a une réponse technocratique qui dit « ah oui, je suis à l'écoute aussi ». Mais je vois en Salvini, je vois en les Polonais, je vois chez M. Orban une cultivation du ressentiment de la population, mais sans leur offrir des solutions véritables à leurs problèmes. Et c'est pour ça que je suis, comme vieux libéral, un peu optimiste. Chaque fois qu'une politique n'offre pas de véritables solutions à des problèmes, ils perdent de souffle. Et puis, petit à petit, on revient à une autre politique qui est plus basée sur des solutions réelles.
Merci beaucoup, Mikhaïl Ignatieff. Vous pouvez retrouver la totalité de cet entretien exclusif sur le site de France Culture, franceculture.fr, bien sûr.